France Musique. Musicopolis. Chanter, danser, musique au collège sous Louis XIV. Qu'est-ce qu'une bonne éducation? Vaste question, pas vrai? À laquelle je réponds? Eh bien, ça dépend. Ça dépend de quand et de qui on parle. À l'époque de Louis XIV, par exemple, le fils d'un paysan n'a pas besoin de savoir les mêmes choses qu'un fils d'aristocrate. Et dans une même famille, je ne vous parle même pas des différences d'éducation entre le frère et la sœur. Donc, ma question est finalement beaucoup moins vaste qu'on aurait pu le craindre. Je la reformule donc. Qu'est-ce qu'une bonne éducation pour les garçons de l'aristocratie et quelques-uns de la bourgeoisie aisée sous Louis XIV? Ayant resserré mon sujet, je vais tout de suite vous citer un article du Mercure Galant de mars 1688. Le collège de Louis le Grand étant rempli de pensionnaires de la première qualité et qui n'en sortent que pour posséder les premières dignités de l'État, dans l'église, dans l'épée et dans la robe, il est nécessaire que cette jeunesse s'accoutume à prendre la hardiesse et le bon air qui sont nécessaires pour parler en public. Fin de citation. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de n'importe quel collège. Le collège Louis le Grand, qui porte ce nom depuis quelques années seulement, avant il s'appelait Collège de Clermont, a une excellente réputation. Il serait l'un des meilleurs de France, peut-être le meilleur de Paris. Et il va former ceux qui deviendront les plus hauts dignitaires du royaume. Le collège Louis le Grand, qui a été fondé dans les années 1560, a une particularité. C'est un collège jésuite. Or, les jésuites, dont l'activité première était le soutien du pape par l'évangélisation, se sont rapidement fait une spécialité de l'enseignement. Un enseignement qui est dit moderne. L'éducation doit être séduisante pour être plus efficace. De même que les cérémonies jésuites à l'église recherchent pompe et beauté, de même, les cours donnés aux jeunes gens vont chercher des formes attractives. Je reviens vers le Mercure Galant de mars 1688 qui poursuit ainsi « C'est dans cette vue, apprendre à parler en public, que les jésuites se donnent la peine d'exercer cette jeunesse en faisant représenter deux tragédies tous les ans. » Ils donnent l'une sur la fin de chaque été, un peu avant que les vacances commencent, et elle est représentée dans la cour du collège, parce que la saison est encore belle. Celle qui paraît sur les derniers jours du carnaval se représente dans une des classes par les écoliers de la seconde. Ces tragédies n'étaient autrefois mêlées que de ballets, parce que la danse est fort nécessaire pour donner de la bonne grâce et rendre le corps agile. Mais depuis que la musique est en règne, on a trouvé à propos d'y en mêler afin de rendre ces divertissements complets.
Où suis-je ? Qu'ai-je fait ? Le ciel est prêt à frapper. Peut-être en ce moment n'a-t-on qu'un nouveau crime. Trop juste courroux, malheureuse victime, au bras qui me poursuit, puis-je encore échapper? Fuyons, 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 fuyons. Que dis-je? Et mon âme certaine ne pourra-t-elle enfin jamais, jamais se rassurer? Et témoin de ma peine, parle de tes bontés, que faut-il espérer? Que dois-je craindre de ta haine? Que dois-je craindre? Que dois-je craindre de ta haine?
Donc, vous l'avez compris? Une bonne éducation est celle qui fait intervenir théâtre, musique et danse. À présent, entrons un peu dans le détail. Et pour cela, revenons encore au Mercure Galant. S'il se donne la peine de parler des tragédies représentées au collège Louis le Grand, c'est que son chroniqueur a été très impressionné par celle qu'il a vue le 28 février 1688. Il poursuit. Outre la tragédie de Saül, qui a été représentée en vers latin, il y en avait une en vers français, intitulé « David et Jonatas ». Et comme ces vers ont été mis en musique, c'est avec raison qu'on a donné le nom d'opéra à cet ouvrage. On ne peut recevoir de plus grands applaudissements qu'il en a eu, soit dans les répétitions, soit dans la représentation. Ainsi, la musique était-elle de Monsieur Charpentier, dont les ouvrages ont toujours eu un très grand succès. Si je reprends ce que nous dit le Mercure Galant, la représentation qui a eu lieu au collège Louis le Grand comprenait un Saül en latin et un David et Jonatas en français et en musique. En comptant le prologue de la tragédie chantée et 5 actes pour chaque pièce, on avait donc à écouter 11 actes d'affilée, avec alternance de musique et de paroles. Ça n'est pas rien, ni pour ceux qui jouent, ni pour ceux qui écoutent. Heureusement, un programme est distribué qui donne toutes les explications et un résumé de la pièce en latin, puisqu'en effet, sans cela, pour les non-latinistes, les subtilités de l'action risqueraient de rester lettre morte.
Attache à ses voix.
L'avantage pour Marc-Antoine Charpentier de composer un opéra qui alterne avec une pièce parlée sur le même sujet, c'est que presque toute l'action se concentre dans la pièce parlée et qu'il peut donc, dans sa partition, se consacrer à l'aspect psychologique. Par exemple, à l'amitié entre David et Jonatas. Les deux sont amis, mais David doit aller combattre Saül, le père de Jonatas. Pour cette raison, David cherche à se détacher de Jonatas, qui lui n'est pas d'accord. Et les deux chantent ce qu'on pourrait appeler un duo d'amitié. Jonatas est jeune et son rôle était interprété sans doute par un garçon n'ayant pas encore mué. Il est chanté aujourd'hui par une soprano. S'il est certain que dans la représentation de février 1688, les collégiens tenaient les rôles de la pièce en vers latin, pour l'opéra et la danse avec musique de Charpentier, il semble qu'il y avait aussi quelques professionnels, notamment pour les parties dansées, où des danseurs de l'Académie royale commençaient les entrées de ballet que les écoliers reprenaient ensuite. La grande qualité musicale et artistique du David et Jonatas de Charpentier a fait qu'il a été rejoué plusieurs fois, à Louis le Grand et dans d'autres collèges jésuites. Et surtout qu'il a été recopié par André Danican-Philidor. Par conséquent, l'œuvre a été conservée, alors que la plupart des productions pour les théâtres scolaires étaient irrémédiablement perdues au bout de quelques années. Et donc, pour toutes les autres tragédies en musique ou entrées de ballet représentées dans les collèges, il faut faire marcher notre imagination. Thank you. Si le collège Louis-le-Grand se fait une spécialité de ses représentations scolaires et que le sommet en est le David et Jonatas de Marc-Antoine Charpentier, il y a bien d'autres collèges qui, eux aussi, utilisent le théâtre à des fins pédagogiques. Charpentier lui-même a donné d'autres ouvrages, par exemple au collège d'Harcourt, aujourd'hui lycée Saint-Louis. C'est un peu plus loin dans le même quartier. Un collège qui, lui, dépend non pas de la Société de Jésus, mais de l'Université de Paris. Puisqu'en effet, même si les collèges jésuites ont énormément de succès, il en existe d'autres qui dépendent soit d'autres congrégations religieuses, soit de l'université. Et cela aussi favorise les spectacles de fin d'année avec pièces de théâtre édifiantes et ballets. Puisque, comme on dit à cette époque, la danse est un plaisir digne d'un homme bien élevé et un exercice utile à la jeunesse. Je vous disais tout à l'heure que l'éducation des filles n'était pas la même que celle des garçons, et par exemple, elle n'était pas assurée dans les collèges de jésuites. Elle ne l'était pas non plus dans les collèges dépendants de l'université. Sous Louis XIV, les filles de la noblesse et de la bourgeoisie aisée sont éduquées soit à la maison par des précepteurs, soit dans des couvents. Cependant, en 1686, Madame de Maintenon, épouse du roi Louis XIV, crée une école très moderne, baptisée Maison Royale de Saint-Louis, à Saint-Cyr, destinée aux filles de la noblesse pauvre. Très moderne parce que axée davantage sur l'instruction générale que sur l'éducation religieuse. Et bien sûr, une part de cette instruction est dévolue aux activités artistiques, dessin, danse, chant, théâtre et musique. Le maître de musique est un temps Jean-Baptiste Moreau. Le théâtre est un exercice important à Saint-Cyr. Les jeunes filles commencent par des pièces écrites spécialement pour elles, par la supérieure et par Madame de Maintenon. Puis, elles jouent les tragédies en vogue, de Tristan l'Ermite, de Corneille et de Racine. Mais on remarque que les demoiselles jouent les scènes d'amour avec beaucoup d'ardeur, ce qui ne convient pas à l'austérité voulue de leur éducation. Madame de Maintenon demande donc à Racine de leur écrire une pièce religieuse plus édifiante. Il écrit « Esther », à laquelle Jean-Baptiste Moreau ajoute de la musique. L'œuvre est représentée en janvier 1689 devant Louis XIV et de nombreux courtisans, avec des décors et des costumes somptueux et les musiciens du roi. Les représentations d'Esther, de Racine et Moreau ont un grand succès. Tellement même que Madame de Maintenon décide d'arrêter là les séances de théâtre qui risquent de rendre les demoiselles de Saint-Cyr par trop orgueilleuses. Néanmoins, on avait déjà commandé à Racine une deuxième pièce pour les jeunes filles, et il avait écrit « Athalie ». Il est décidé que la pièce sera jouée et chantée avec musique de Jean-Baptiste Moreau, mais en toute simplicité, sans décor, en robe de l'école et avec pour tout public la famille royale. Dans la préface d'Athalie, Racine explique qu'il a choisi de situer sa pièce le jour de la Pentecôte. « J'ai songé, écrit-il, que ces circonstances me fourniraient quelques variétés pour les chants du chœur. Ce chœur est composé de jeunes filles de la tribu de Lévi, et je mets à leur tête une fille que je donne pour sœur à Zacharie. Elle chante avec lui, porte la parole pour lui, et fait enfin les fonctions de ce personnage des anciens chœurs qu'on appelait le coryphée. J'ai aussi essayé d'imiter des anciens cette continuité d'action qui fait que leur théâtre ne demeure jamais vide, les intervalles des actes n'étant marqués que par des hymnes et par des moralités du cœur qui ont rapport à ce qui se passe. À Saint-Cyr, le théâtre s'est arrêté bien vite. Mais dans les collèges de garçons, jésuites ou non, musique et danse ont continué à être des matières importantes qui ont donné lieu à de nombreuses créations. Beaucoup ont disparu, mais d'autres seront peut-être découvertes un jour. L'ouverture d'Athalie de Jean-Baptiste Moreau, la Symphonie du Marais dirigée par Hugo Rennes. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Clément Diaz pour les recherches et le site, Philippe Petit pour la réalisation et Claude Niort pour le mixage. À réécouter sur francemusique.fr.